Chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Bonjour à tous et bienvenue sur Attitude. Comme chaque fin de semaine, on se retrouve avec Enrico pour l'émission de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême. Il va vous présenter dans quelques secondes notre invité de cette semaine et aussi le thème qui sera abordé. Bonjour Enrico.
Salut mon lapin, tu vas bien ?
Toujours, écoute.
Toujours avec nous pour cette émission de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême. Vous n'hésitez pas bien sûr à toutes les informations que l'on va vous donner. Vous les retrouverez sur les différents sites de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême. Angoulême, que ce soit le www.angoulême-tourisme.com ou tout simplement les différents réseaux sociaux, Facebook, Agenda. Vous pourrez également aller sur le site angoulême-agenda. Vous retrouverez vraiment toutes ces informations également sur le site de notre invité que l'on présente, mais qui est un invité qui vient régulièrement puisque il fait beaucoup de choses pour Angoulême et pour la ville, puisque c'est notre Florent Gaillard National. Salut Florent.
Salut Enrico.
On t'avait invité il n'y a pas longtemps pour les arts de l'islam, mais on t'invite pour une nouveauté et pour quelque chose qui va rester jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, pour les gens qui veulent en profiter, c'est une des expositions, puisque toi tu as deux casquettes, c'est important, hein. Directeur du musée du papier, mais également responsable des... Alors, directeur, ça se dit aussi directeur des archives municipales.
Oui, si tu veux. Oui. On va faire simple.
Il n'aime pas. Responsable des archives municipales, il a bien sûr toute une équipe avec lui qui s'occupe également de ce lieu. Les archives municipales 33, avenue Jules Ferry, pour les gens qui veulent aller vous retrouver et retrouver ton équipe. Et ça sera une exposition qui s'appelle Bienfaiteurs et donateurs, qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre 2022 pour les gens qui veulent en profiter. Explique-nous un peu le lieu, les archives, parce que je pense que les gens ne connaissent pas forcément ce lieu comme un lieu culturel. Les gens voient ça vraiment comme une espèce de bibliothèque où il y a des rats savants qui restent et qui fouillent et qui refouillent et pas que.
Alors tu as tout à fait raison Enrico, parce que c'est la vision un peu traditionnelle des archives, un lieu où on conserve effectivement une mémoire dans des boîtes qu'on ouvre assez rarement, et une salle de lecture réservée peut-être à une élite intellectuelle. C'était la vision des archives autrefois. Elle a bien changé, heureusement, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, les archives municipales, les archives de la ville d'Angoulême sont un service public, ouvert au public tous les jours, je le rappelle. Donc nous sommes avenue Jules Ferry, au numéro 32. Donc vous arrivez très vite depuis le centre-ville à la maison des archives de la ville, et vous serez accueillis du matin au soir, on va dire de 9h à midi et demi, et de 13h30 à 17h dans la salle de lecture, où on met à votre disposition une bibliothèque assez remarquable de toutes les publications qui ont pu être imprimées depuis plus de 100 ans sur Angoulême et la Charente. Et puis évidemment, si vous cherchez des archives particulières, eh bien on mettra à votre disposition également ces archives publiques qui sont très nombreuses, puisqu'on a plus de 3 km linéaires d'archives votre disposition.
Okay.
Donc voilà, c'est quelque chose d'important qui commence au 14e siècle et qui va jusqu'à aujourd'hui. C'est toute la mémoire d'Angoulême que nous conservons dans ce bâtiment avec mes collègues, et c'est un plaisir bien sûr de les conserver, c'est notre métier, mais encore plus je dirais de les partager avec un public de plus en plus large.
Exactement, et c'est le but de ces expositions, et c'est le but de ces moments d'échange, puisqu'après viennent se greffer à ça des événements, des rencontres, des conférences. Et là, voilà, je sais que tous les ans vous faites des choses assez sympas, et là c'est un truc alors qui moi ne me parle pas du tout. Et j'avoue que je connaissais le principe des bienfaiteurs et des donateurs, mais je pense plus aux Italiens, je pense plus aux... Je sais pas si comment elle s'appelle cette famille à la Renaissance qui était super connue en Italie,
les Médici, pardon.
Les Médici, voilà, exactement. Voilà. Et c'est vrai qu'on connaît plus ces grandes familles-là, mais pas que, il y en a plein.
Puisque l'idée c'est de montrer, si vous voulez, que Angoulême, comme à Florence, comme à Paris, comme dans d'autres villes, dans d'autres cités, il y a eu dans l'histoire de la bonne ville d'Angoulême des personnages, alors des grands, des plus petits, qui par passion pour leur ville ou par un souci d'aide aux autres ont donné à travers le temps tout ou partie de leur fortune, de leur collection à la ville d'Angoulême. La ville d'Angoulême les a honorés en donnant parfois le nom d'une rue, d'un bâtiment, et puis parfois aussi on les a un peu oubliés parce que certains remontent évidemment à plusieurs siècles. Donc on a souhaité vraiment mettre en valeur ces hommes et ces femmes qui ont permis d'accroître les collections, à la fois des musées, des archives, des bibliothèques, et puis qui ont souvent aussi beaucoup donné pour ceux qui étaient en souffrance, et notamment en période de pandémie. Donc voilà, c'est surtout la pandémie qui nous a rapprochés, au fond, de ces personnes, sujet. Voilà, qui, à l'époque où la sécurité sociale n'existait pas, où la politique sociale était, on va dire, au niveau zéro, eh bien, il y avait, des personnes, alors ça pouvait être des princes, ça pouvait être des religieux, ça pouvait être des maires, des personnalités qui avaient un peu d'argent et qui ont consacré comme ça leur fortune en aidant leurs concitoyens.
Ils étaient nombreux sur Angoulême ?
Alors, ils étaient pas très nombreux, mais en fonction des périodes, on en retrouve comme à partir du Moyen-Âge. D'accord. Alors, c'est vrai que dans les textes, à partir du Moyen-Âge, on parle plutôt de bienfaiteurs, c'est-à-dire des personnes qui apportent un bienfait. Alors, qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a l'autorité ? Ce sont souvent les princes, ce sont les comtes, bien sûr, les représentants du pouvoir royal, ce sont les évêques qui dirigent, bien sûr, le diocèse. Et ce sont aussi les maires qui sont à la tête de la mairie d'Angoulême, qui a été fondée au XIIIe siècle. Donc, ceux qui ont un peu de subsides et qui souvent vont intervenir dans des moments de guerre, dans des moments de pandémie pour apporter un peu de bienfait. Alors parmi ces bienfaiteurs du Moyen-Âge, il y a une femme qu'on aime bien Angoulême et qu'on redécouvre, c'est Isabelle Taillefer, puisque vous savez, cette jeune d'Angoulême qui va épouser le roi d'Angleterre, on lui doit quand même, par l'intermédiaire de son premier époux, le roi d'Angleterre, une commune. C'est elle qui est à l'origine, quelque part, de la fondation de la commune d'Angoulême. Qui dit commune, dit privilège, dit avantage. Donc toute une série, si vous voulez, de principes qui vont être à l'origine de la démocratie locale. Il y a un adage qui disait « l'air de la ville rend libre ». L'air de la ville rend libre.
Excellent.
Donc il faisait bon habiter dans ces villes de communes au Moyen-Âge, plus qu'à la campagne, où on était encore beaucoup plus soumis à l'autorité féodale du seigneur et à beaucoup de droits. Donc bien sûr, il y a Isabelle Taillefer, il y a le roi Charles V, autre roi bien connu de l'histoire, qui, au cœur de la guerre de Cent Ans, va recréer la commune d'Angoulême et apporter lui aussi franchise et liberté. Il y a aussi des personnages très attachants, comme le comte Jean, le grand-père de François Ier, qui, au retour de 32 ans de captivité en Angleterre, s'installe à Angoulême et, là encore, va combler la ville de bienfaits en créant, par exemple, une halle pour les bouchers, en reconstruisant le château. Ça donne du travail. Hein, c'est pas une petite de New Deal. Hein,
oui,
en reconstruisant ses châteaux de Charente, même, on va dire. Mais là, on parle plus d'Angoulême. Et en ayant à cœur, vraiment, de donner à la ville une nouvelle impulsion. Et en demandant aussi à son cousin Germain, le roi de France, Louis XI, d'exonérer les habitants d'impôts directs et indirects. Voilà, donc des bienfaiteurs, il y en a eu beaucoup. Alors là, je parle de célèbres, bien sûr, le public, pouvoir laïque. Il y a aussi, bien sûr, des bienfaiteurs religieux qui ont donné toute une partie de leur fortune pour agrandir la cathédrale, créer des institutions comme des hôpitaux, bien sûr.
D'accord, oui, comme en sachant que les cathédrales, les églises, s'il n'y a pas de bienfaiteurs, l'église à elle seule ne pouvait pas construire ce genre d'édifice.
Par exemple, la cathédrale d'Angoulême, bien sûr, chef-d'œuvre de Gérard II, ce célèbre évêque du XIIe siècle qui était l'ambassadeur de plusieurs papes, le légat de plusieurs papes en France. Mais il y a derrière lui un chanoine qui s'appelait Itier Archambault, moins connu, qui a donné une partie de sa fortune pour terminer la façade.
Ah, mais lui, il a une rue, d'ailleurs, sur le coup.
Et voilà.
Lui, il a une rue. Parce que c'est marrant, parce que quand tu as commencé tout à l'heure l'explication, et voilà, le pendant, il y en a qui ont eu certaines rues. Et en plus, ça peut donner une idée de qui sont les personnages. Je sais qu'il existait un vieux livre qui est sorti sur le nom des rues d'Angoulême. Hein,
oui, par M. Benz, ouais, bien sûr, qui a fait un travail extraordinaire et avec lequel on travaille régulièrement aux archives.
Oui, voilà, qui avait travaillé par la force des choses via également les archives. C'est grâce à ce que tu as gardé, ce que tu peux mettre à disposition du public, qu'on peut faire ce genre d'ouvrage et d'ailleurs rendre, comment on dit, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, ça va me revenir, c'est rendre populaire ce genre d'informations.
Nous avons les sources quelque part aux archives, et c'est vrai que si vous regardez si vous regardez l'affiche, vous verrez un personnage avec une superbe moustache.
Je me suis demandé qui c'était.
Eh bien, c'est un jeune angoumoisin qui est né en 1597. C'est Jean-Louis Guez de Balzac, le grand, le célèbre Jean-Louis, vous savez qui était l'un des hommes les plus célèbres, du XVIIe siècle, parce que ses lettres ont fixé quelque part la langue française et elles ont conduit quelque part ce personnage à être parmi les premiers membres de l'Académie française. Ça, c'est la part, bien sûr, prestigieuse, littéraire, culturelle de cet angoumoisin, mais on oublie peut-être un peu trop la deuxième partie, qui est celle de la générosité. Cet homme, à la fin de sa vie, va se dépouiller un peu de tout et va... quelque part légué aux pauvres et à la ville 20 000 livres, ce qui est énorme en argent à l'époque, pour eh bien les bienfaiteurs des hôpitaux, des pauvres qui, à ce moment-là, bien sûr, sont marqués par les pandémies, et on pense à la peste.
Exactement. On va faire une petite coupure publicitaire et musicale. On va revenir toujours pour parler de cette exposition qui se déroule aux archives municipales bienfaiteurs et donateurs. On va continuer à parler de quelques personnages, comme d'habitude, intéressants, mais que vous retrouverez sur des conférences faites par toi. Tu devrais en faire une ou deux ?
Oui, le 25, déjà, on a une visite guidée le 25 avril. Donc, voilà. 25 avril à 15h, on a une visite guidée de l'exposition qui permet de mieux comprendre un peu, avec les archives qui sont présentées, ces personnages et ces aventures.
On en reparle d'ici quelques minutes. On fait une petite pause musicale et publicitaire et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême.
Chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Toujours sur Attitude et dans votre émission l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême, Enrico, toujours présent dans les studios, va nous rappeler notre invité de cette semaine et le thème.
Notre invité, l'indéboulonnable Florent Gaillard, qui restera avec nous jusqu'à ma retraite, je vous le dis. Il viendra même de façon généreuse quand il ne travaillera plus. Florent Gaillard présent avec nous pour nous parler de la nouvelle exposition Bienfaiteurs et Donateurs qui se déroule du 4 mars au 31 décembre 2022 aux archives municipales, avenue Jules Ferry. Vous pourrez bien sûr leur téléphoner si vous souhaitez au 05 45 38 91 97 pour avoir des informations. Et n'hésitez pas, vous allez également sur notre site angoulême-agenda. Vous cliquerez dans exposition et vous trouverez votre bonheur, ou vous allez également sur les différents sites et réseaux sociaux. On continuera à faire le relais pour tous les gens qui veulent profiter de cette nouvelle exposition faite par l'équipe de Florent, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que Florent.
Il faut un porte-parole.
Exactement.
Mais j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire autour de moi.
Exactement, ça c'est important.
L'équipe féminine, précisons aux archives.
Oui, c'est vrai.
Exceptionnel.
Qui sont super gentilles et hyper accueillantes. On parlait de Jean-Louis Guès de Balzac, mais il y en a d'autres. On a parlé vraiment du début. Des gens peut-être les qui parlent le plus aux Angoumoisins, Isabelle Taillefer, le papa de François Ier, le grand-père. Et Jean-Louis Guès de Balzac, mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment toute une évolution. Et il y a vraiment des gens qu'on oubliait, comme tu disais. Et voilà, parle-nous encore de quelques connus et de moins connus, malheureusement.
Oui, c'est vrai qu'on passe surtout des bienfaiteurs, comme on dit à l'origine, jusqu'au 18e siècle, aux donateurs. Les donateurs sont parfois des gens moins connus, mais dont quelque part les bienfaits ont été très nombreux.
Ça peut être des monsieur tout le monde.
Ça peut être des monsieur tout le monde, bien sûr, puisque nous avons la chance d'avoir des fonds très intéressants qui nous montrent que non seulement un banquier très riche a donné beaucoup de choses, mais aussi une dame très modeste, professeur de dessin, qui donne une petite maison à la ville avec un petit jardin. Tout ça en reconnaissance parce que la ville l'a aidé à un moment ou à un autre. Donc on a des exemples vraiment magnifiques qui se multiplient, parce qu'il faut le dire, à partir du 19e siècle. D'ailleurs, c'est l'origine des musées, quelque part. L'origine du musée d'Angoulême, c'est un don. C'est le don de M. Ringuet qui va donner des toiles à la ville d'Angoulême. C'est un peu pareil au musée du papier, où on a des dons considérables de la famille Garneau, par exemple, l'étiquette de fromage, musée du papier, voilà. Les différentes institutions de la ville, la bibliothèque s'est enrichie essentiellement, et beaucoup par des apports comme ça, par des dons. Et on va montrer dans l'exposition, et vous le découvrirez à travers une exposition d'archives, donc on montre des vitrines avec des manuscrits, des lettres, des imprimés, des photographies, que des personnes comme ça, qui vont, on le dit, d'un prof de dessin jusqu'à un grand pianiste argentin, puisqu'un des derniers dont nous avons reçu, c'est ce cher Alberto Neumann.
Avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai passé des soirées.
Quelqu'un de merveilleux.
Qui était l'homme le plus gentil. Il était entre le fou génial et le poète lyrique, il était magnifique.
Il a confié toutes ses archives aux archives municipales. Et c'est merveilleux de pouvoir, d'abord, d'avoir dépouillé ce fonds d'archives, d'avoir trouvé des lettres, des photographies extraordinaires. Et on présente, vous verrez dans l'exposition, quelques photos, bien sûr, d'Alberto, de son maître, Michelangeli, le grand pianiste italien. Et puis aussi des autographes extraordinaires, comme Arthur Rubinstein, qui passe à Buenos Aires en 1947, et qui écrit un petit mot à Alberto Neumann, qui est un tout jeune pianiste en herbe à l'époque. Donc voilà, tous ces documents sont très émouvants, et ce sont des bienfaiteurs, ce sont des donateurs, bien sûr, très importants. Il y en a d'autres qu'on a oubliés, et je voulais ne pas les oublier. C'est un couple de Loumeau. On aime bien le quartier de Loumeau, Angoulême. Il y a la médiathèque aujourd'hui, voilà. C'est un quartier très riche. Vous savez, Balzac disait une ville riche et industrieuse à propos de ce quartier de Loumeau. Dans ce quartier de Loumeau, il y a eu au 19e siècle un couple. Pierre Ozone et Marguerite. Leclerc-Chauvin. Un couple assez riche, lui était banquier, elle était d'une famille de marchands, Loumeau était, comme je l'ai dit, une ville aisée à ce moment-là, un lieu de commerce, bien sûr. C'est un couple qui n'a pas d'enfants, et qui va être marqué par l'épidémie de choléra au 19e siècle. Et on a redécouvert cette famille et ce couple assez extraordinaire, et c'est eux qui vont être à l'origine de trois institutions qui existent encore aujourd'hui à travers leurs dons. Premier, c'est l'orphelinat Leclerc-Chauvin, que je continue aujourd'hui, bien sûr, sous notre forme, qui a été créé par donc Monsieur Leclerc-Chauvin au 19e siècle, à la mort de sa femme. C'est le Maine Blanc, si vous voulez, vous connaissez, au pied de la ville d'Angoulême. Enfin, il y en a pour une centaine d'orphelins, hein, qui fabriquaient quelque part des jeunes et des futurs jardiniers, hein, ou des hommes de ferme, à des enfants qui avaient perdu donc leurs parents ou leur père. Et une autre institution majeure, la Providence, la maison de retraite de la rue de Paris. D'accord. C'était la propriété des Leclerc-Chauvin, et ils avaient vu que beaucoup de femmes, un peu sans ressources, méritaient qu'on puisse les héberger. C'est l'origine de la Providence au 19e siècle, vers 1858. Et vous avez aussi une autre terre des Leclerc-Chauvin. C'est un charmant petit logis avec 67 hectares. C'est Girac, c'est le petit Girac.
C'est le petit Girac
qui ont été à l'origine de la fondation de première institution hospitalière de Girac, qui se développera, comme vous savez, au fil du temps.
Ils ont vraiment.
Donc voilà. Oui,
et puis c'est pas trois petites choses.
Trois petites choses. Ce sont des dons énormes. Puis ils ont aidé différentes associations, différentes fondations, avec notamment les Sœurs de la Sagesse à l'orphelinat Saint-Martial, pas très loin d'ici. Voilà, donc c'est une famille extraordinaire, et on a souhaité aussi, bien sûr, les mettre en valeur aux côtés d'autres. Alors, il y en a un autre qui est considérable, c'est Jean Fougerat, ce pharmacien inventeur.
La fameuse rue Fougerat, pas loin d'un
quartier. Oui,
mais
voilà.
Personne sait qui est ce monsieur.
Eh ben, ce monsieur, c'est un pharmacien qui a donné toute sa fortune considérable au bureau de bienfaisance d'Angoulême. Et c'est avec cet argent qu'on a construit ce bâtiment du CCS qui est à côté de Franquin, qui est magnifique.
Ah oui.
Et que la ville a pu hériter d'un fonds de vignes, Bois-Charente à Graves. Et puis, bien sûr, de tout cela pour soutenir l'action du bureau de bienfaisance d'Angoulême. Donc, Jean Fougerat.
C'est quelqu'un de plus récent, là.
Il est mort en 1932, je crois.
D'accord. Donc, voilà. Vraiment, oui, voilà.
Donc, voilà, c'est quelqu'un d'un peu plus récent, mais passionnant aussi, et vous découvrirez, bien sûr, dans l'exposition, eh bien, un registre des Leclerc-Chauvin. Vous découvrirez aussi, bien sûr, le portrait de Monsieur Fougerat, et puis aussi d'autres personnages qui ont offert à la ville des objets, des céramiques, des peintures,
des collections. Ça,
voilà. Et c'est comme ça que les musées sont enrichis, et nous avons quelques belles œuvres que Émilie Salaberry nous a prêtées du musée d'Angoulême, qui montrent, voilà, l'enrichissement de ces donateurs qui sont multipliés, et je veux dire qu'ils sont très nombreux, puisqu'ils se multiplient encore aujourd'hui, puisqu'on reçoit régulièrement des dons aux archives, et on a souhaité aussi mettre ces personnes en valeur.
Comment on fait d'ailleurs, si c'est une question bête, puisque tu parles de ça? Alors moi, sur le coup, je pourrais pas te donner grand-chose, parce que j'ai pas grand-chose, à part des vignettes Panini, mais je suis pas sûr que vous les collectionniez. Si tu veux faire un don, et que tu te dis, voilà, ça peut avoir une valeur vraiment... quel est le process?
C'est
on vient
simple.
Te voir.
Oui, généralement on vient nous voir, moi ou mes collègues,
oui, bien sûr, oui.
aux archives. Il faut bien sûr que le document, le manuscrit ou l'imprimé, ou la gravure ou le journal ait un rapport immédiat et très important avec Angoulême. si c'est trop général, on prendra pas, parce que nous, on a vocation à conserver ce qui touche Angoulême. Si vraiment ce document est très important, eh bien, effectivement, on acceptera ce don qui, après, passera au conseil municipal pour que les élus, bien sûr, se prononcent, pour que eh bien le document rentre vraiment, véritablement, dans les collections de la ville. C'est une chance formidable, puisque, quelque part, ces documents ne seront pas partagés, ne seront pas vendus, ils resteront dans les collections publiques et ils marqueront vraiment.
Et ça, voilà, c'est important.
Et on va recevoir quelques jours pendant les archives du peintre Claude Bénard, qui est un peintre extraordinaire d'Angoulême, qui a marqué tout le XXe siècle. Et sa fille a vraiment accepté de nous donner les archives de son père, qui nous donne un état de artistique de la ville des années 30 aux années 90.
Ah,
il
oui.
a tenu des journaux et passionnants sur la vie artistique, la vie culturelle d'Angoulême au fond du XXe siècle.
C'est génial. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à l'idée que l'on peut se faire des bienfaiteurs et des donateurs. Il y a vraiment toute une histoire qui peut vous toucher aujourd'hui, et vous verrez, ça pourra même peut-être donner des idées à certaines personnes qui ont peut-être un fond, sans le savoir, d'une grand-père, d'une grand-mère.
Il y a deux jours, par exemple, une dame vient me porter des lettres de l'épouse du peintre Maurice Utriot.
Non.
Si. Voilà.
Sérieux? Excellent.
Voilà. Le fameux Lucie Valor, qui était peintre aussi, voilà. Et qui était d'Angoulême. Voilà. Donc, c'est tous les jours. Donc,
c'est génial.
Hommage vraiment à toutes celles et ceux qui font cette action, qui sauvent quelque part la mémoire.
Exactement. Et on aura surtout la chance de venir te rencontrer et vous rencontrer pour voir cette exposition. Je sais on a encore 2-3 minutes des conférences, des moments de rendez-vous, et je te laisse en parler pour pas perdre de temps.
Alors déjà, sur notre programme MAM du mois d'avril, l'autre n'est pas encore imprimé, il va l'être bientôt, vous avez un rendez-vous, une visite guidée de l'exposition qui est assez intéressante, parce que ça permet, avec Sylvie Blaise-Bossuet, notre médiatrice, ou avec moi, de mieux comprendre les œuvres qui sont présentées à travers une visite guidée qui dure une petite heure. C'est le 25 donc avril prochain, donc aux archives municipales, 33 avenue Jules Ferry, dans notre bonne salle Castaigne.
Réservation de
conseiller. Oui, réservez, téléphoner de préférence, bien sûr, aux archives avant pour s'inscrire, parce que l'espace n'est pas immense, mais on aura comme ça le bonheur, bien sûr, de vous recevoir. Et puis, bien sûr, l'exposition est visible tous les jours au public.
Bien sûr,
des archives. Voilà, donc vous aurez l'occasion comme ça de pouvoir redécouvrir un peu qui sont ces hommes et ces femmes, les grands et les moins connus, voilà, tous ceux qui ont donné une partie de leur bien, de leur souvenir à la ville.
Exactement. D'autres moments particuliers, même si on déborde un peu, qu'on sort des archives.
Après, il y aura d'autres rendez-vous qui sont fixés entre mai et août, qui seront dans le prochain programme et que je vous invite bien sûr à découvrir. Il y aura notamment une conférence sur Jean-Louis Guès de Balzac, dont on parlait il y a quelques minutes.
Exactement.
Parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire de l'histoire d'Angoulême, qui est un peu oublié, qui est né et mort Angoulême, et bien sûr, en dehors de sa vie d'académicien, a été un très grand bienfaiteur. On mettra comme ça en valeur aussi quelques grandes figures des donateurs, comme Monsieur Ganivet, un député complètement oublié qui avait offert des tableaux d'un peintre de Louis XIV par Rossel à la ville d'Angoulême. Voilà, donc c'est l'occasion de se promener, on va dire, d'Angoulême à Versailles, presque là.
Exactement. On te remercie, Florence. C'est comme d'habitude un immense plaisir de t'écouter. Et je pense qu'à chaque fois, je le dis et je le redis, mais je le redis encore, on pourrait faire des émissions qui durent des heures et des heures avec toi. Mais voilà, on n'hésite pas à aller profiter de cette exposition jusqu'au 31 décembre, gratuite. On a oublié de le dire pendant toute l'émission.
Gratuite,
elle est gratuite.
Bien sûr.
Sur les heures d'ouverture, 9h30, midi et demi, 13h30, 17h.
17h.
Voilà, exactement, je dis pas de bêtises. On peut téléphoner au 05 45 38 91 97 si on le souhaite. Et on peut surtout aller sur les différents sites. Le site du MAM, avec les différents musées municipaux. Également, le site de l'office sur angoulême-agenda.com. Vous pourrez récupérer également les infos. Ou tout simplement, nous téléphonons au 05 45 95 16 84. On te remercie, Florent, d'avoir
Merci
été
Enrico.
Avec nous.
Merci, Enrico.
Et on redonne la parole à mon ami Jérôme. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités.
Merci Florent, toujours un plaisir de vous écouter sur Attitude, dans l'office de tourisme. J'espère à une prochaine pour de nouvelles histoires aussi, toujours, comme l'a dit Enrico, très impressionnantes et très très intéressante. Enrico, nous on se retrouve la semaine prochaine avec la débauche et les concerts et festivals avec deux personnes chargées de communication qui vous expliqueront tout ça en détail. Excellente semaine, très très bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine.